êtes Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue Cinérama, c'est une émission qui dure une demi-heure, une émission hebdomadaire sur le cinéma. Ces derniers temps, on a beaucoup écouté bien les réalisateurs et pour ces dernières émissions de l'année 2024, on va plutôt jouer à des blind tests. Et aujourd'hui, c'est un blind test autour de la filmographie d'Uma Thurman, Sophia, parce que tu as vu un film dans lequel l'actrice joue.
Oui, effectivement Vincent, elle joue dans Au Canada, le dernier film de Paul Schrader, mais ce ne sera pas son plus grand rôle, hein. Je pense qu'elle a en tout et pour tout deux répliques.
Eh bien on verra dans le blind test qu'elle n'a pas eu forcément tout le temps des grands films. Toi Manu, c'est un documentaire.
Un documentaire assez hallucinant de Werner Herzog, hein, Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft.
Et puis toi Guillaume, tu t'es sacrifié.
Ouais, mais oui, j'ai essayé de convoquer la magie de Noël, mais il n'y avait pas beaucoup de choses de magique dans Red One.
Et j'ai failli faire un blind test Dwayne Johnson, mais après j'ai abandonné.
Merci.
Et puis moi je vous parlerai du dernier film de Nabil Ayouch, le réalisateur franco-marocain. Mais nous commençons avec l'hommage donc de Werner Herzog à deux grands spécialistes des volcans.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Werner Herzog, hein, s'il n'est pas, et encore ça se discute, hein, l'un des cinéastes majeurs du cinéma mondial encore en activité, il représente au moins une des figures les plus singulières et novatrices, bah, ce qui en fin de compte revient à peu près au même. Hein. Sauf que l'Allemand n'est pas, malgré les immenses qualités esthétiques de ses films, un grand formaliste. Son talent est ailleurs, hein, dans sa manière de s'emparer de sujets hors normes et de les traiter d'une manière si unique que chacun de ses opus reste gravé. Âgé aujourd'hui de 82 ans, hein, il a couvert 6 décennies depuis ses débuts en 62, abordant aussi bien la fiction, le documentaire que le film institutionnel. Alors il s'amuse parfois à faire l'acteur aussi, notamment dans Jack Reacher, hein, où il jubile à incarner le méchant. Il est reconnu alors essentiellement pour une poignée de films devenus cultes comme Le Dément Cœur de Verre, Fitzcarraldo et puis surtout bah, Aguirre, La Colère des Dieux, hein, avec une thématique qui revient constamment, l'homme face à la nature.
This film is in memory of Katia and Maurice Kraft, volcanologists from the Alsace region in France.
Au cœur des volcans, hein, Requiem pour Katia et Maurice Kraft ne déroge pas à la règle. Hein. Ce n'est pas la première fois que l'Allemand s'intéresse aux volcans. Au fin fond de la Fournaise, en 2016, distribué par Netflix notamment. À la différence que dans son nouveau documentaire, hein, il n'a rien filmé, juste assemblé et monté des images d'archives provenant de Katia et Maurice Kraft, un couple de volcanologues français qui ont œuvré durant leur courte vie pour la diffusion des connaissances et des risques volcaniques. Alors, en voix off, hein, il prête donc sa voix, mi-ironique, mi-admiratif, hein, pour raconter l'extraordinaire existence de ces deux personnages atypiques, hauts en couleur, dignes de héros de romans d'aventure, hélas décédés en pleine action en 1991. Ce qui intéresse Herzog, hein, dans leur cheminement, c'est le glissement progressif d'un statut à un autre. Katia et Maurice, hein, sont partis d'une démarche analytique, purement scientifique, quant à leur objet d'étude, pour petit à petit se mettre en spectacle de manière très naturelle et sans suffisance, et surtout de devenir finalement des cinéastes impliquant des questions de mise en scène. Ils ont fini par troquer leur outil de mesure contre tout un arsenal vidéo, dernier cri, hein, afin de capter dans toute sa splendeur la beauté des volcans en éruption. Ils sont devenus en fait de véritables démiurges se mettant en danger à chaque expédition. Le résultat est tout simplement impressionnant. On se laisse complètement happer par les images renversantes captées en direct par deux fous furieux jouant constamment avec leur vie. À plusieurs reprises, on se demande comment ils ont pu filmer avec tout de même les moyens du bord en dépit de l'investissement énorme. Une irruption qui ravage un village entier, la lave qui descend de la montagne. Au cœur des volcans, un titre bateau mais finalement bien choisi, immerge le spectateur dans un spectacle de la matière, non pas du son et de la lumière, mais du feu et de l'eau. Hallucinant notamment de séquences où la lave se mélange à l'océan. Fasciné par la splendeur de la nature, Herzog n'en oublie pas d'étayer un propos pertinent, non dénué d'humour, même noir par ailleurs, montrant l'échec de l'être humain à dompter la nature qui sera, quoi qu'il arrive, toujours plus forte. C'était déjà le sujet du génial Grizzly Man, où l'écologiste Timothée Treadwell pensait vivre en harmonie avec les ours jusqu'au jour où il s'est fait dévorer par eux avec sa compagne. Aveuglés par leur passion, les Kraft n'ont pas toujours mesuré les risques qu'ils encouraient, ou alors ils étaient sur une pente quasi suicidaire. Alors ils sont décédés en 1991 dans une coulée alors pyroclastique, ça veut dire à base de gaz et de cendres ressemblant à un gros nuage, sur le mont Unzen.
Voilà. Qui est où?
Et voilà, je conseille fortement ce documentaire qui est absolument incroyable en fait.
Ouais, alors tous ceux qui aiment les volcans effectivement peuvent s'y plonger. À noter quand même qu'il est sous-titré, tu disais, Au cœur des volcans, bon, un titre passe-partout, mais c'est sous-titré Requiem pour Katia et Maurice Kraft, donc bien les deux personnages que l'on voit dans ce documentaire qui est en salle depuis le 18 décembre. Nabila Ayouch s'empare encore d'un destin de femme, nous parlons de Everybody Loves Touda.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Nabil Ayouch fait partie de ces réalisateurs que j'ai pu rencontrer et pour qui j'ai une grande estime. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais il y a dans la trajectoire du réalisateur franco-marocain un acte fort. Lui qui a vécu sa jeunesse dans une ville francilienne communiste a fini par la quitter pour aller vivre au Maroc car il sentait que c'était là-bas qu'il devait faire du cinéma. Un cinéma en phase avec son époque et avec son pays. Un cinéma engagé plus que militant ou poseur. C'est une réussite d'ailleurs parce que son premier long métrage Mektoub sera le premier film à représenter le Maroc à l'Académie des Oscars. Alors plus tard avec Whatever Lola Wants, il raconte les déboires d'une employée de la poste à New York rêvant de devenir une danseuse orientale. Et puis avec Les Chevaux de Dieu, il fait un film alors là remarquable sur la radicalisation religieuse d'un jeune Marocain et de son impact sur sa famille. Son film Much Love, dans lequel il suit quatre prostituées à Marrakech, lui vaut quelques ennuis, le royaume le considérant évidemment obscène. Alors s'il n'a pas toujours suivi des parcours féminins, les femmes sont souvent quand même présentes dans ses films et souvent des chanteuses. Et bien pour son dernier long métrage Everybody Loves Tunda, Nabil Ayouch s'intéresse encore une fois à la condition féminine mais prend un destin individuel, celui de Touda.
تغاون وتيغا معايا قبا انا جايه نسوي ماشي باش نبيش تغاون الجوا انا فيغا معايا الخوت يلا
تغاون الخوت انا سي رابع اما السيتي انا ديالو
انا ماشي قحبه كنغني
Touda est une jeune femme, mère de famille, qui habite une zone rurale du Maroc. Elle tente de vivre de son chant. Alors on la voit qui chante des chansons que tout le monde connaît, de la variété, qui met l'ambiance. Mais ce qu'elle veut, elle, c'est s'emparer de la haïta, un genre musical ancestral porteur de libération, transmis de génération en génération chez les Bédouins. Haïta signifie le cri en arabe. Le réalisateur décide alors d'articuler deux dimensions. Il y a les dimensions culturelles, qui pour nous, finalement, n'est pas si inintéressante. Celle d'un chant populaire léger, enjôleur, qui invite surtout les hommes à avoir les mains baladeuses quand ce n'est pas à oser le viol, et c'est d'ailleurs ainsi que commence le film. Et puis l'autre pan du récit est le parcours de l'héroïne qui, mère d'un jeune fils muet, alors on aurait souhaité destin moins pesant, choisit d'aller tenter sa chance à Casablanca. Alors c'est non seulement un moyen, pense-t-elle, de vivre sa passion de l'haïta, mais aussi de trouver une école qui accueille son enfant, ce qui est bien complexe à la campagne.
غير الفلوس بغيت نكون شيخه ديال بصح
Casablanca, eh bien, n'est qu'une promesse qu'on ne tient pas. Hein. Une ville avec ses hôtels miteux, ses bars avec les mêmes clients, confondant la chanteuse et la prostituée. Nabil Ayouch entre en résonance avec une société marocaine clivante, ostracisante. Touda va tout faire pour exister. Une séquence peut-être un peu trop limpide pour raisonner suffisamment nous montre comment elle a sa chance, mais comment finalement, eh bien, en tant que femme et chanteuse, elle aura du mal à s'approcher de son rêve. À travers son héroïne, Everybody Loves Touda est un hommage aux Shekat, des femmes en rébellion contre le pouvoir en place et qui chantaient l'Aïta, hein, donc un genre musical marocain normalement porté par les hommes. Il se trouve que ces femmes ont un temps été adulées par la population marocaine avant qu'elles ne soient considérées bien comme des femmes de mauvaise vie. Et en montrant ce parcours, Nabil Ayouch tente de les réhabiliter. L'interprétation de la comédienne Nisrine Eradi est remarquable. Elle s'est formée au chant et à la danse, hein, pour mieux incarner son personnage. Je crois qu'elle a passé, eh bien, plus d'un an à se perfectionner, et ça se voit manifestement à l'écran. C'est l'une des réussites du film. Cependant, on ne décèle pas vraiment de singularité dans le récit. L'issue du film ne fait pas illusion, alors ça manque un peu de souffle, même si on est loin de passer un mauvais moment. Mais disons que par rapport à ses précédents films, on sent que Nabil Ayouch s'en tient à la surface, au point qu'on ne saisit que de manière trop vague, hein, ce que c'est que le chant Aïta, puisqu'elle n'arrive, elle arrive à peine à le chanter. Enfin, si j'ai bien saisi. Voilà. En tout cas, ce film de Nabil Ayouch, Everybody Loves Touda, et Paul Schrader réunit Richard Gere et Uma Thurman pour Au Canada, qui était en compétition à Cannes.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Pour Au Canada, Paul Schrader retrouve Richard Gere, qui sait. 45 ans après leur collaboration culte dans American Gigolo, pour ce qui pourrait sembler, bon, au premier abord, être un nouveau coup d'éclat, une adaptation du roman testamentaire éponyme Au Canada de Russell Banks, décédé en 2023 et ami du réalisateur. Aux côtés de Richard Gere, deux autres grands noms, comme tu le disais Vincent, hein, partagent l'écran. On a Jacob Elordi, qui avait été révélé dans la série Euphoria et récemment salué pour son rôle dans Priscilla, ainsi qu'Uma Thurman, qui incarne ici un personnage secondaire mais vraiment central pour la narration. Avec un tel trio et une thématique introspective autour de la mémoire et des vérités enfouies, le film avait toutes les cartes en main pour captiver. Mais alors que le titre « Au Canada » laissait présager une ode mélancolique, voire une déclaration d'amour au lointain pays des érables et des caribous, eh bien on serait presque tenté de le renommer, après une heure et demie, « Oh, comme c'est dommage ».
I forget why I agreed to do this. Tell me why I agreed to do this.
This documentary will record your progress from your arrival in Canada as a draft refugee through your career as a filmmaker.
Where's my wife?
I'm here, Leo.
L'histoire suit Leonard Fife, Richard Gere, donc, un documentariste très renommé, fictif, hein, on n'est pas dans un biopic, mais qui est en fin de vie. Malade, affaibli par la chimiothérapie, il accepte l'invitation d'anciens élèves à réaliser une dernière interview. En fauteuil roulant, souvent confus, il exige néanmoins un dispositif très précis. L'interview doit être filmée en plan rapproché, dans le noir total. L'éclairage ne sera fait que sur lui. Et sa femme Emma, donc Uma Thurman, devra être présente en permanence pour cette ultime introspection sans qu'il ne puisse la voir. Mais c'est bien à elle qu'il s'adresse pour qu'elle sache qui elle aime, qu'elle sache qui il est. Alors au fil de l'entretien, la caméra des élèves devient un témoin des révélations et confessions de Leonard et offre le plus clair des plans de Au Canada sur un Richard Gere vieilli pour le film. Alors que son personnage de documentariste est connu et admiré pour son engagement, hein, il aurait notamment fui les États-Unis pour ne pas faire la guerre du Vietnam, et c'est à partir de là qu'il commence à tourner des docus sur des sujets sociétaux et politiques, et bien peu à peu, il va dévoiler les zones d'ombre de son existence face à la caméra, mensonges accumulés, actes lâches et vérités cachées qui pourraient bien changer la perception que l'on a de lui.
Light from the road.
été surprise de voir ce film en compétition officielle à Cannes, c'est bien que tout d'abord, sa construction peut laisser un peu perplexe. Paul Schrader semble avoir voulu expérimenter à tout prix, alors multipliant les éclats stylistiques, ellipses temporelles chaotiques et achroniques, passages au noir et blanc, superpositions de voix off qui se contredisent parfois, et un format d'image qui se recadre aux quatre tiers, alors bon, sans raison valable. Ces choix de mise en scène rendent le récit plus laborieux et décousu que nécessaire. On comprend hein, bien que le thème central, celui de la mémoire et des récits que l'on construit, légitime ses choix. Bon, ne sommes-nous pas tous le résultat des histoires que nous nous racontons? Le personnage de Leonard Fife, au seuil de sa mort, bataille en fait à détricoter le patchwork d'histoires vraies et fausses dont son mythe est composé. Mais alors que le sujet de la mémoire, avec ses zones floues et ses omissions plus ou moins volontaires, est un terrain fertile au cinéma, avec des films qui explorent brillamment ces mécanismes comme Memento de Christopher Nolan ou encore Big Fish de Tim Burton, dans le registre des secrets d'un père à découvrir, ici le thème est traité avec nettement moins d'efficacité. Take my feet to the bar, where I know you at night are. Take my coins, I place them there. Make that sound I love to hear, 'cause I have been long against this night. Leonard Fife, loin d'être un héros cherchant la rédemption, est présenté comme un personnage sans concession, vil et lâche. Ce parti pris est intéressant, mais il finit par éloigner le spectateur de toute empathie. On ne sait d'ailleurs même pas vraiment qui il est. Le film ne prend pas tellement le temps de nous le faire connaître et apprécier, ne serait-ce qu'un minimum, et on a donc vraiment l'impression de regarder pendant une heure et demie un vieil homme pas très sympa qui se regarde le nombril et nous y oblige avec lui. Sa femme Emma, Uma Thurman, donc presque aussi passive que nous, subit elle aussi. Finalement, à l'image de son personnage principal, au Canada semble pris au piège de ses propres contradictions. Incapable d'articuler une vision claire, il parvient tout de même à laisser un écho sombre et troublant pour ceux qui sauront être indulgents.
Voilà, ce film au Canada, qui était donc en compétition à Cannes, eh bien, n'a absolument rien remporté. Pourtant, le jury aurait pu faire quelque chose encore d'un peu plus improbable qu'il ne l'a fait. Mais ce film, en tout cas, nous donne l'occasion de jouer à un blind test avec la filmographie de son actrice Uma Thurman. Donc, ce sont 5 extraits que nous allons vous faire écouter. Et il faut évidemment trouver le titre. Premier extrait.
Oubliez vos étoiles et redescendez sur la Terre, notre mère, notre fondement. Elle n'attend de vous que loyauté et protection. Hélas, vous éventrez sa Terre, empoisonnez ses océans, assombrissez son soleil. Vous allez la tuer.
Oui, vos intentions sont louables, mais sans fioul pour se chauffer, sans conservateur pour protéger les aliments, des millions de pauvres gens mourraient de froid et de faim, sans parler du reste.
Ce serait bien peu de chose dans cette bataille pour sauver la planète.
Les humains d'abord, Dr. Isley.
Alors, c'est trouvé, Guillaume.
C'est Batman et Robin, l'inénarrable Batman et Robin de Joel Schumacher.
Oui, film de 1997. Uma Thurman interprète Ivy, Poison Ivy, au baiser mortel, qui a le souhait de soumettre le monde au pouvoir des femmes fleurs. 1,3 million d'entrées en France pour cet opus de Batman. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Uma Thurman.
Ça va ?
Michael, j'ignore ce que tu as vu dans ta machine, mais je me rappelle qu'en revenant de ton labo il y a quelques semaines, tu étais tout pâle. Et tu m'as posé une question très bizarre.
Quoi ?
Si j'avais su qu'il n'y avait aucun avenir entre nous, avant même d'être ensemble, qu'est-ce que j'aurais fait ?
T'as répondu quoi ?
Que je ne renoncerais à notre histoire pour rien au monde. C'est tout ce qu'on est, la somme de nos expériences. Les belles choses de la vie sont très souvent le fruit d'erreurs.
Alors évidemment, on fait avec une VF, hein, donc il faut trouver le titre d'un film d'Uma Thurman. Ici, dans l'équipe, personne n'a pour l'instant trouvé. Alors si je vous donne l'indice, alors déjà, celui qui lui donne la réplique, l'acteur, c'est Ben Affleck.
Ah, c'est Paycheck ?
Oui. Donc, film de John Woo de 2004. Michael Jennings travaille sur des projets top secrets. Après chaque mission, sa mémoire est effacée. Après sa dernière mission, il découvre qu'il a refusé d'être payé avant de recevoir une enveloppe contenant des indices sur son passé. 700 000 entrées en France pour ce film. Troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Uma Thurman.
Je m'inscrivais à ce concours.
Vraiment ?
Mais quel concours ? Je dois écrire en 500 mots maximum ce que ça représente d'être mère.
Et qu'est-ce que tu vas dire ?
Des choses, enfin. Je cherche... J'en sais rien, comment le monde de la maternité est un monde de licornes et d'arc-en-ciel, un monde de... En fait, j'ai pas mal d'idées.
Je vois. Et tu veux essayer cette crème, garantie sans vivisection ni produits chimiques ?
Non, merci.
Alors, bon courage si vous trouvez. Il se trouve que ce film a fait 154 entrées en France. Donc, il s'agissait de ce qu'on appelle une sortie technique. Il y a une seule salle qui l'a sorti pour une séance, ou deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un film qui compte dans sa filmographie, puisqu'elle a le rôle principal. Elisa est une maman super occupée, et en plus, elle doit faire à deux défis de taille, participer à un concours pour devenir journaliste dans un prestigieux magazine parental, et organiser en même temps une super fête d'anniversaire pour sa fille de 6 ans. Quelle mère exemplaire! C'est Maman mode d'emploi. Voilà. Film de 2009 de Catherine Dickman. Oui, bah, il fallait au moins un compliqué, parce que celui-ci est facile.
Mais le climat est tellement changeant, le ministre veut des réponses.
Toujours ce ministre, hein ?
Ça ira, je crois être sèche. Vous outrepassez.
Pardonnez-moi.
J'ai besoin de l'avis d'un spécialiste. En théorie, évidemment, si je voulais modifier la nébulosité, comment m'y prendrais-je ? Par microtransmission.
Oui, par microtransmission.
Seulement, on n'en a pas exploré les applications militaires depuis la guerre froide. Ah,
le mélange du chaud et du froid.
Une douche écossaise. Une théorie surannée, intéressante, mais impossible.
Mais rien n'est impossible, seulement mathématiquement improbable.
Alors, ça sèche, bah, décidément, ouais. Cette Uma Thurman ne vous a pas passionné. Que dire sur ce film ? On entendait la voix française, en revanche, de Sean Connery. Voilà, ça peut être un indice.
C'est chapeau bleu vote de cuir.
Oui, ouais. Bravo.
C'est un sacré, là aussi, un sacré nanar de compétition.
Eh hein. Oui.
Après Batman.
Je l'ai vu au cinéma, celui-là.
C'est rude, hein, c'est très très rude.
Très rude.
Film de 1998, donc il y a aussi Ralph Fiennes. Un célèbre agent secret britannique et une jeune femme découvrent qu'un passionné de météorologie a le pouvoir d'intervenir sur les climats. 1,3 million d'entrées en France, pardon.
Oui, à noter que si vous voulez voir le seul film où Sean Connery est déguisé en nounours dans le rôle du grand méchant, et non, ce n'est pas Toy Story 3, ben regardez quand même ce film.
Allez, dernier extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Uma Thurman, c'est facile.
Ah, t'as tourné un pilote ?
J'aurais mieux fait de me casser une patte.
C'était quoi ?
Une histoire d'espionne, une équipe féminine des services secrets, 5 filles qui affrontaient la pieuvre.
Quoi ?
La mafia, la pieuvre. Il y avait d'abominables gangsters, des trafiquants de crack qui voulaient forcer des pauvres filles à en prendre. Et puis il y avait nous, 1, 2, 3, 4, 5 filles. Il y avait la blonde, Somerset O'Neill, c'était la chef de groupe. La japonaise faisait du karaté, une vraie bête. La belle noire jouait les expertes en dynamitage. La petite française se spécialisait dans tous les trucs sexuels.
Et toi, ta spécialité ?
À ton avis, le couteau. Mon personnage était une enfant de la balle. C'était les gens du cirque qui lui avaient appris à lancer le poignard.
À trouver.
C'est Pulp Fiction.
Et oui, film de 94 de Quentin Tarantino. On écoutait la voix française de John Travolta qui donnait la réplique. Les parcours tragiques pour la plupart hein, de tueurs professionnels, d'un boxeur, de gangsters et de petits truands qui se croisent dans Los Angeles. 2,8 millions d'entrées en France et une palme d'or à Cannes en 94. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc à la filmographie de Uma Thurman pour le film « Au Canada » de, tu vas le dire,
Paul Schrader.
Merci Sophia. Allez, Guillaume, tu t'es un peu sacrifié pour eh bien, nous donner goût à Noël, hein, finalement, avec Red One sur Amazon Prime.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Alors, goût ou dégoût, hein, mais bon, après tout, c'est la saison de Noël. Hein, on sait tous qu'elle est bien connue hein, bah, pour être la saison des miracles. Alors, si les mathématiques se passent de toute saison pour exister, elles nous ont appris hein, qu'il y a toujours une exception à la règle. Alors, cette année, Dwayne Johnson a compris que formule pré-mâchée, archétype revisité de façon post-moderne et gros sabots de reine enrobés d'images de synthèse génériques ne pouvaient pas forcément apporter la fortune dans la crèche, hein, mais faire sentir le sapin à son gros film de fin d'année. Red One hein, n'a pas que de rouge le sujet de son film, hein, puisqu'il est question du Père Noël, mais surtout ses contes. Hein, et il n'est pas dès lors très surprenant de le voir débarquer sur nos petits écrans après un four monumental sur les grands écrans américains.
Red One, vous êtes autorisé à décoller.
Rentrons chez nous. On arrive chez vous.
Les choses vont bientôt se corser.
Noël approche et c'est l'ébullition au pôle Nord. Alors tout le monde est sur le branle-bas de combat, les chaînes tournent et les elfes s'activent pour que tout soit prêt le jour J. Tout le monde sauf eh bien, le Père Noël lui-même, qui pour une raison incompréhensible s'amuse à faire le Père Noël de supermarché. Alors tel le pape allant à la rencontre de ses fidèles pour les sonder, mais cette fois-ci de façon incognito, il discute avec les enfants et subit ce que subissent tous les Pères Noël de grande surface, à savoir l'ingérence des mioches insupportables, le bruit et la bêtise ambiante et, nouveauté de notre brillant monde d'après, les influenceurs qui viennent bousculer tout le monde pour faire des selfies et des vidéos avec lui sans savoir que c'est lui. Alors autant dire que l'esprit de Noël bat son plein et que ça donne envie de se battre pour l'esprit des fêtes. Justement, cet esprit des fêtes, il est en train de quitter Calum, le chef de sécurité du pôle Nord, joué donc par Dwayne Johnson. Alors qu'il décide de déposer sa démission à son employeur, voilà Tipa qu'il est enlevé par un mystérieux commando la veille de sa tournée mondiale. Calum a alors l'obligation morale de sauver Noël en sauvant le Père Noël, mais tout balèze qu'il est, il ne peut bien évidemment pas le faire tout seul. Les circonstances vont donc lui mettre dans les pattes un magouilleur professionnel, Jack, joué par Chris Evans, qui a fait passer son empire dans Tourloupe avant son propre fils qu'il néglige et qui va l'aider bon gré mal gré dans cette quête. Alors je ne pense pas devoir aller plus loin, car vous aurez bien évidemment compris la suite, Calum va retrouver l'esprit de Noël et vouloir continuer à assister le Père Noël car il aura retrouvé la magie, la même magie de Noël qui va faire comprendre à Jack quel triste père il était et qui va le rapprocher d'un enfant qu'il n'avait pas cherché à comprendre. Ah oui, au milieu de tout ça, y a quand même une sorcière, le Krampus, et un gros ours gardien de sécurité nommé Garcia.
Vous n'auriez pas une figurine de Wonder Woman par hasard?
C'est pas comme ça que ça marche. Bonhomme de neige, on approche!
C'était sympa de te rencontrer, Cal. Bonne chance pour tout.
On comprend que Red One va être compliqué dès ses premières minutes. Quand on voit qu'on entre dans la ville du Père Noël comme dans le Wakanda et que sa maison est devenue une tour identique à celle de Tony Stark, donc que la production design ne trouve rien de mieux que de s'inspirer de Marvel, on grince des dents. On crisse un peu plus des molaires quand Dwayne Johnson aide le Père Noël à se garder en forme en l'assistant pendant sa session d'haltérophilie. Et on se demande de manière générale pourquoi avoir une esthétique rappelant le film de Commando sans l'aspect comique de la parodie vue dans Phantom qui voyait Lee Majors, l'homme qui valait 3 milliards et l'homme qui tombe à pic, sauver l'atelier du Père Noël des envahisseurs à coups de sulfateuse. Alors oui, car derrière ces hommes armés, il y a une sorcière aussi âgée que le Père Noël qui aurait apparemment troqué la magie contre du Kevlar. Bon, alors passons aussi le fait que le frère maléfique du Père Noël, le Krampus, fait ici une longue, aussi longue qu'inutile apparition, niant tout son aspect d'antagoniste, pour préférer faire des références à des émissions stupides, car on aura compris que l'idée de départ riche en potentiel, à savoir le vol de la liste des enfants qui n'ont pas été sages comme prétexte pour mieux punir tous les pêcheurs ne sera jamais exploité. Alors un peu comme son budget délirant de plus de 200 millions de dollars affichant des effets spéciaux indignes d'une production d'il y a 20 ans et qui confirme que ce genre de production ne sont que des détournements de fonds cachés sous le couvercle de l'art. Red One est en somme un très mauvais produit de saison mais un parfait produit de consommation sur le support qu'il a choisi pour l'accueillir, les plateformes et ce qu'elle nomme contenu en guise de proposition culturelle et de façon de faire de l'audiovisuel. Mais bon, vu que c'est aussi la saison du bonheur et de l'amour, on va être indulgent et ne pas le conseiller aux enfants qui n'ont pas été sages cette année. Qui sait, à défaut d'être enlevés par une méchante sorcière, ils pourraient devenir les réalisateurs algorithmés de demain.
Et pour voir ce film, il faudra d'abord s'offrir Prime, parce que c'est sur cette plateforme qu'il est diffusé.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, toi, Manu, pour Noël, tu auras deux films.
Deux films, oui, Joli Joli et Banzo.
Et puis toi, Sophia, un film.
Oui, My Sunshine, un film japonais.
Et quant à toi, Guillaume ?
Moi, je vais vous parler du Déluge.
Et moi, j'aurais préparé un blind test autour de la filmographie de Guillaume Canet à la semaine prochaine.